passage à flashback.
J'ignore ce qui se passe. Je me suis réveillé au beau milieu de la jungle, pistolet entre les mains, et mon esprit est embrouillé. J'ignore où je suis. J'ignore jusqu'à mon nom. J'ignore pourquoi, mais on cherche à me tuer. J'ai dû éliminer quelques mutants errants. Et ces cannibales en veulent à ma peau. Heureusement, j'ai trouvé la sortie de ce labyrinthe.
Mon ami Conrad, enfin! Je t'attendais.
Vous connaissez mon nom?
Bien sûr, mon vieux. Nous travaillions ensemble dans le même laboratoire.
Je me souviens de rien, là.
Assieds-toi sur cette chaise. Je vais te réinsérer les mémoires par impulsion électroplasmique.
Bah, d'accord. Oh mon Dieu, mais des extraterrestres ont infiltré la Terre et menacent de nous exterminer!
Te réveille en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous allez continuer à jouer. Toutes les semaines depuis 15 ans.
I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. You spent your time in a little cubicle. In a cubicle.
À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bon après-midi à tous et à toutes et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire sur le monde ludique puissance maximale, semaine du 28 septembre 2009. Et comme à l'habitude, je suis en compagnie, mon nom est Vincent Langlois, je suis en compagnie de François G. Couillard.
Salut Vincent Langlois, fidèle comparse.
Salut François. Alors, une émission puissance maximale, l'émission, la première émission sur le monde ludique à Québec, bien sûr, à la radio. Et c'est une émission extrêmement bien remplie, comme à l'habitude, extrêmement chargée. François, de quoi va-t-on parler aujourd'hui?
Bien, on va avoir beaucoup de choses. Hein. On va avoir l'actualité ludique, comme d'habitude.
Oui.
Et on va avoir aussi une rencontre avec Émile Gauthier et Jean-François Jasmin qui vont parler du festival Antenna.
Excellent. Et oui, de l'actualité, comme tu disais. Également, moi, de mon côté, je vais vous parler de deux jeux que j'ai testés. En fin de compte, un que j'ai testé officiellement et un autre que j'ai testé par la bande. Donc, c'est un test pas très officiel. Le fameux NHL 2010 de EA Sports, qui a été un test officiel. Et bon, j'ai eu une petite fête avec des amis en fin de semaine. Et la personne fêtée a reçu le Rock Band The Beatles. Alors, on pourra parler de ça également.
Est-ce qu'il a acheté la grosse boîte ou juste la petite...
La grosse boîte, le gros kit au complet. Et on pourra s'en reparler, qu'est-ce qui vient avec ça, un petit peu plus tard dans l'émission. Alors, on va y aller tout de suite en musique, François.
On va aller écouter une pièce de groupe québécois qui est très multiculturel, qui n'existe malheureusement plus, la Chango Family. Ça va être la pièce Misanthrope. Parce que on sait que les gamers sont des gens qui vivent dans le sous-sol, un verre de boisson énergisante à la main et une manette de l'autre. Et ce sont des gens seuls souvent, alors des misanthropes. Vous écouterez ça sur Sequoia 88.3, puissance maximale.
J'ai mes entrepôts de misanthropie et je misais trop peu à mettre au tapis mes idées noires, mon cafard, mes verres de trop jetés sur le boulevard. Où était le buvard? Oh oh oh, quittait les jours bavards. Où était le soleil sur mes matins blafards? J'ai entreposé des idées reçues, des a priori sur le premier venu, des bibelots, des statues, des tableaux, pour mieux voir en peinture l'inhumaine nature. Ça m'amusait, oh, de visiter le musée, pour oublier au fond l'araignée au plafond. Ha! Je nourris l'urticaire, antiquaire je chine lors de l'ordinaire, turiféraire en devise imaginaire, sur le cours de la vie je spécule à bon prix, philistin pharisien, gardien de phare, je m'emmène en bateau pour aller nulle part, misanthrope.
N'oubliez pas, le jeu doit rester un jeu.
Puissance maximale.
FM.
Et nous sommes de retour sur les ondes de CKIA avec la chronique d'actualité. Plusieurs nouvelles cette semaine du côté de l'actualité. Qu'est-ce qui a retenu ton attention, François?
Ben, parlons tout d'abord de ce qui s'est passé samedi. Le Binox, la visite guidée
oui.
à des nouveaux locaux de Binox. Donc, visiblement, c'était un très grand succès. C'est du moins ce que titre Le Soleil. Donc, il paraît que l'industrie du jeu vidéo exerce un grand pouvoir d'attraction chez les jeunes et les moins jeunes. Et donc, la journée est porte ouverte organisée par Binox Studio dans leurs nouveaux locaux, coin Charest et Dorchester, juste à côté d'ici. C'est de le démontrer une fois de plus. Donc, il y avait une grande file de gens qui attendaient. Il y a même des gens qui n'ont même pas pu rentrer tellement qu'il y avait...
Tellement qu'il y avait du monde.
Oui. Et il y a eu 1325 personnes qui ont participé à la visite guidée. Donc, c'était simplement d'explorer, de voir les studios des créateurs de jeux. Et selon Virginie Fauché, la responsable des relations publiques, on devait débuter à 10h, mais il y avait des gens qui attendaient à partir de 8h30.
Ouh!
Donc, pas loin du show de Metallica.
Ouais, Metallica même. C'était un petit peu plus avant ça, des fois.
Et là, j'ai une primeur, en parenthèse, je sais, de quelqu'un qui est allé. Moi, je suis pas allé, je déménageais, donc je dans les boîtes un peu.
Oui, on est un petit peu pris de court de ce côté-là, de notre côté.
Sinon, je serais allé. Mais il y a Mathieu de la Nikasie qui m'a dit qu'il y avait deux files d'attente. Une file d'attente pour les visites guidées et les visites libres, en quelque sorte. Les visites libres, ça va beaucoup plus vite parce qu'il n'y a personne pour t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de guide. Mais il m'a expliqué un truc assez amusant. C'est que les gens qui faisaient la visite libre, ça allait plus vite, ils rentraient. Et une fois rendu à l'intérieur, il y avait moyen de passer par un passage secret.
Oh.
Il y avait une bibliothèque qui se déplaçait, qu'on pouvait déplacer de façon latérale. Et là, il y avait comme un espèce de couloir. Et les gens qui passaient par là, ils étaient accueillis. « Bonjour, vous avez découvert le passage secret. Vous pouvez maintenant faire la visite guidée.
» Wow!
Donc, il y avait moyen de faire la visite guidée plus rapidement en passant par
le quelle bonne idée, quand même. C'est vraiment ouais. très bien.
On voit qu'on a affaire à des gamers.
Eh oui! De mon côté, Infinity Ward, c'est une compagnie connue pour avoir développé les jeux Call of Duty, et on sait que c'est eux qui ont développé le Call of Duty 2, le Modern Warfare, qui est connu comme le Call of Duty 4, disons.
Le fameux jeu de c'est de guerre?
Oui, c'est ça, de guerre à la première personne, vraiment, là, qui est...
Mais c'est-tu contemporain, le quatrième?
Ouais, le quatrième était contemporain, oui, c'était Modern Warfare. Et bon, il y a eu le cinquième, qui est Worlds at War, qui retourne dans le passé un peu. Et bon, ce qui a été dit cette semaine au niveau de la nouvelle, c'est qu'on ne prévoit pas lancer de démos, parce qu'on sait que les démos, c'est très, très, très populaire au niveau des jeux de console. On place des démos sur les différents serveurs ou PlayStation Store ou Xbox Live pour que les gens puissent justement essayer le jeu quelques semaines ou parfois quelques mois avant la sortie. Et on a décidé chez Infinity Ward que on ne lancera pas de démo pour la sortie du prochain Call of Duty qui est dû pour le début du mois de novembre. Alors, ça va décevoir quelques joueurs qui voulaient vraiment le voir parce qu'on a vu des petits previews, disons, dans un mauvais français pour le prochain jeu et ça a l'air vraiment excellent. Donc, malheureusement, on ne pourra pas l'essayer en démo, mais ça devrait sortir au début du mois de novembre et on attend ça avec beaucoup d'impatience.
Sinon, ce qui a retenu mon attention aussi, c'est qu'il y a une baisse de prix de la console Wii.
Et oui, ben, en fin de compte, on arrive avec des nouvelles... pas des nouvelles consoles, mais du côté de Microsoft avec la 360 et de Sony avec la PlayStation, il y a des baisses de prix. Donc, j'imagine qu'il faut que Nintendo joue un peu là-dedans parce qu'elle est encore à 249 ou 269 quand même, la Wii. Là.
Elle est descendue à 220.
220 $
Et Nintendo abaisse le prix de la Wii pour la première fois depuis 2006. Ça a été lancé en novembre 2006, cette console-là.
Oui.
Donc, justement, les autres, Microsoft et Sony, ont baissé le prix de leur console. Et donc, voilà, pour la période des fêtes, peut-être que vous pourrez vous gâter. Et il faut dire que les ventes de jeux sont en baisse de 15 à 30% par rapport à l'année dernière. On l'a expliqué, la crise a affecté la vente de jeux.
Oui.
Et Nintendo espère peut-être relancer, qui sait, le marché de la Wii, les ventes de la Wii.
On espère pour eux, mais même, tu parlais de la baisse des ventes au niveau du jeu, ça apporte même certaines compagnies à retarder leur sortie un petit peu plus tard. Donc, les grandes sorties, parfois, qu'on a avant Noël, ça se peut qu'on décide de les placer un petit peu plus tard dans l'année. Ben, en fait, compte au début de la nouvelle année, où il y a une période un peu plus creuse, comme février ou mars. Donc, c'est quand même assez spécial de voir ça aller, parce qu'on attend des titres depuis un certain moment, quand on est des gamers, puis on veut vraiment...
Noël, c'est toujours le moment où ils sortent tout.
Et oui, mais là, ça a l'air qu'on va peut-être placer quelques titres ailleurs.
OK. Donc, ça, la source, c'était jouer.com.
Sur examiner.com, il y a Patricia G. Lee, qui est l'actrice qui incarne la voix de Jill Valentine pour la série Resident Evil, qui a révélé qu'elle avait fait de la post-synchronisation pour le Resident Evil 5, le jeu qui est sorti au mois de février. Mais t'en as parlé la semaine dernière, justement, François, et peut-être faire juste une petite mention pour les auditeurs qui nous ont pris. Resident Evil 5 est sorti sur les consoles au mois de février dernier, au mois de mars dernier, mais la semaine passée, François nous a annoncé qu'il sortait en fin de compte, la semaine dernière. Et François, tu n'avais pas tort parce que c'était pour le PC, donc c'est sorti pour le PC. Eh bien, Patricia Lee, qui est une actrice en post-synchronisation pour le jeu, elle dit que, paraît-il que Capcom sera en train de développer un Resident Evil 5, mais Director's Cut. Oh. Les coupures du directeur. Donc, on aurait quelque chose de plus, peut-être, au niveau des cinématiques.
Encore et avec peut-être... les deux au cinéma. Là,
et oui, en fin de compte, oui, le jeu qui devient pratiquement un art, dans un sens. Et ça devrait sortir bientôt. En tout cas, on est en train de travailler là-dessus, donc ça serait intéressant de voir. Et sur ce que j'ai pris sur allaboutthegames.co.uk, en fin de compte, ça vient d'Angleterre, en fin de compte, du Royaume-Uni. C'est une nouvelle qui concerne Barack Obama, paraît-il. C'est une nouvelle d'hier, finalement. Paraît-il que samedi soir, elle a prononcé un discours dans un caucus où on parlait vraiment d'éducation chez les gens, tout ça. Uh-huh. Et il a mentionné que...
Il parlait de
Wii Fit? Non, même pas. Il parlait d'éducation. Il a mentionné « Le gouvernement ne peut malheureusement pas mettre pour les familles, ne peut pas mettre de côté la PlayStation. » Il a mentionné le mot PlayStation dans un de ses discours et paraît-il que ça serait... en fin de compte, ce serait voulu parce qu'il y a quelques semaines de ça, il avait parlé de la Xbox en faisant à peu près les mêmes commentaires. Et ça avait comme levé un peu l'étolé de certaines personnes peut-être chez Microsoft qui disaient, bon, pourquoi mentionner la Xbox 360 comme un problème là-dedans? Pourquoi mentionner la Xbox et pourquoi pas mentionner les autres? Donc peut-être que dans son prochain discours, il mentionnera la Nintendo Wii. Oui, en fin de compte, il parlait vraiment de ça parce que, bon, pour certaines personnes, c'est un problème, justement, d'avoir des consoles à la maison, que les jeunes ne sortent pas autant, ne font pas autant d'exercices.
Ah, okay. Je pensais que tu voulais dire qu'il fallait prendre en compte les consoles pour aider à la santé.
Non. Lui, ce qu'il disait, c'est que, regardez, le gouvernement ne peut pas rien faire contre ça. Vous les achetez, les consoles, chers parents. Alors, c'est à vous de gérer le travail, en fin de compte, de gérer la façon dont vos enfants les utilisent. Et c'est à vous de choisir, justement, à quel moment ils les utilisent, à quel moment ils ne peuvent pas les utiliser.
Okay.
Donc, c'était dans son discours, il y en avait déjà, comme je te disais, il avait déjà mentionné la Xbox 360 il y a quelques semaines de ça. Ça levait un peu l'étolé. Donc, sûrement que ses attachés de presse ont décidé que ce coup-ci, il allait parler de la PlayStation 3.
Il devrait peut-être parler plus des consoles de jeux en général. Tu sais, comme ça, ça susciterait pas de controverses.
Non, mais peut-être que les gens en général ne comprendraient pas. On associe le nom PlayStation et le nom Xbox. C'est assez facile de comprendre à ce moment-là.
Ouais.
Mais ça vient relever encore une fois le problème des jeunes qui sont trop devant leur écran, mais vraiment Barack Obama l'a bien dit, ce n'est pas le problème du gouvernement nécessairement, c'est le problème des parents. Éduquez vos enfants d'une bonne façon et ajustez les heures justement durant lesquelles ils peuvent jouer tout simplement.
Bon, ben voilà, c'est Barack Obama qui s'intéresse aux jeux de console. Sinon, on va aller écouter une pièce musicale.
Allons-y, oui.
Donc, la pièce de notre ami Yannick Capmarty de Haute-Garonne. Donc, musax.info, allez voir ça si vous vous intéressez à la musique de jeux vidéo, comme nous l'apprécions tant. Alors, on est dans la série Castlevania, vous êtes à puissance maximale.
La série Castlevania a débuté en 1986 sur la NES. Le thème qui suit provient du premier épisode sur la PlayStation, sorti 11 ans plus tard.
Alors, le temps que nos invités s'installent, nous allons poursuivre avec une pièce de mathématiques qui sera justement présent au Festival Antenna. Et là, dans quelques minutes, il sera question justement de ce festival qui s'en vient. Musique et technologie, beaucoup de musique électronique. Alors, allons écouter ça, une musicienne de Québec qui fait justement dans la musique 8 bits, mathématiques. Et ça sera la pièce « Fire ».
Thank you. Je suis Patrice Desilets, directeur créatif d'Assassin's Creed, et vous écoutez Puissance Maximale.
Donc, très bientôt aura lieu le festival Antenna, et nous avons avec nous en ce moment deux personnes actives dans ce festival de musique et de nouvelles technologies. Jean-François Jasmin et Émile Gauthier. Bonjour messieurs, bienvenue à Puissance Maximale. Donc, le Festival Antenna va avoir lieu du 30 au septembre au 4 octobre. Et donc, pouvez-vous me dire succinctement, pour commencer l'entrevue, question d'introduction, là, c'est quoi Antenna exactement? C'est la quatrième édition?
Exactement, mais la quatrième édition du festival. La grande thématique, c'est la musique et la technologie en Saint-Roch. Forcément, Antenna vise à faire découvrir ce qui se fait de nouveau au niveau musical, par exemple, dans le quartier Saint-Roch, à Québec, forcément, mais aussi d'ailleurs. Donc, je pense que la programmation évolue de plus en plus vers l'accueil d'artistes internationaux. Et forcément, on le sait, à Québec, dans, en matière de technologie, notamment dans le milieu du jeu vidéo, mais dans d'autres domaines artistiques aussi, on développe des expertises qui nous permettent de mettre une programmation éducative intéressante.
Et là, on entend la belle voix de Jean-François, mais on a aussi Émile, justement, qui s'adonne à travailler pour Ubisoft.
Bonsoir, messieurs.
C'est pas la première fois que tu viens, alors...
Toujours un plaisir de venir vous voir, les boys.
C'est le plaisir est pour nous.
Alors toi, Émile, c'est plus le volet, justement, musique, parce que, justement, toi-même, tu es un musicien.
Oui, ben je porte un peu deux chapeaux, moi, en fait, cette année à Antenna, ben un peu l'année dernière aussi, remarque, puis l'autre année d'avant, dans le fond, je porte toujours deux chapeaux à Antenna, parce que...
T'es un artiste multidisciplinaire.
Oui, si on veut, des fois, ça me met dans le trouble, mais c'est assez agréable aussi au quotidien. Ben, tu sais, volet musical, moi, je lance un EP, donc mon premier EP solo le samedi, donc le 3 octobre à minuit au Studio P. C'est un rendez-vous, c'est le premier EP que je sors tout seul, donc c'est très, très influence dubstep et raga même quand même, très, très lourd, beaucoup de grosses basses. Je vous invite à venir me saluer ce samedi. Sinon, ben avec Ubisoft, encore une fois, cette année, pour la troisième fois, on présente une activité.
Une conférence qui s'appelle Ludo Estetica.
Exactement, Ludo Estetica, c'est une anti-conférence, je dirais. C'est même une performance parce qu'il n'y aura rien d'une conférence traditionnelle dans cette activité là, si on veut.
Mais c'est quoi une anti-conférence?
une anti-conférence là, c'est
on en va fait voir si on a la même définition, mon cher.
c'est un peu anti-concept PowerPoint habituel, tout le monde assis, on écoute la conférence, on regarde la personne lire ce qu'il y a à l'écran, tout ça. Donc nous, c'est carrément pas ça en fait. On propose une réflexion sur le jeu vidéo comme forme d'art, qui est un sujet quand même assez qui peut être creusé énormément. Sauf que là, on s'est dit, on peut pas parler d'art en faisant quelque chose de trop straight. Mm-hmm. Donc là, ça va être un peu à la fois pièce de théâtre, parce que les gens qui vont être sur place, il y a moi, il y a Yannick Piché qui est directeur créatif chez nous, qui va jouer le rôle principal, puis un collègue, Martin Bédard, qui est programmeur chez Ubisoft. Donc, on va jouer un peu trois rôles. Donc, puis le rôle, ça va être surtout Yannick qui va driver la chose, si on veut. Donc, lui, il va jouer le rôle un peu de ce qu'il joue comme dans la vie réelle, c'est-à-dire un concepteur de jeu qui doit créer un jeu vidéo. Okay.
Mais ça va ressembler à quoi? Il va y avoir des écrans partout? Il va y avoir une projection de vidéo?
Oui, il va y avoir des projections, mais je dirais que l'élément original va surtout être dans le concept, c'est-à-dire que c'est à la fois pièce de théâtre, donc on joue des rôles, à la fois une soirée de jeu, parce que Yannick va jouer à des jeux pour illustrer comment un jeu vidéo peut être une forme d'art, puis un show musical aussi, parce que moi, je vais être là, je vais faire de la musique, Martin va être là aussi avec sa bass, avec son synthétiseur, donc ça va être très lourd au niveau musical, ça va prendre beaucoup, beaucoup de place, puis on va toujours appuyer les propos d'Yannick par la musique. Okay. Puis même les séquences de jeu, on va faire de la musique originale par-dessus les séquences de jeu, donc le mélange au travers, tout ça est quand même assez, assez intéressant. Puis on a questionné nos fans sur Facebook, sur la page d'Ubisoft Québec, à savoir est-ce que le jeu vidéo est une forme d'art. Mm-hmm. Ça a donné lieu à des réflexions vraiment intéressantes, là. Donc on s'est inspiré de ça aussi, donc un petit côté interactif, là. On a lancé l'appel au public au début, si on veut, puis par la suite, eh bien, on va récupérer les éléments de ces réponses-là pour se faire une tête là-dessus. Là.
Est-ce que vous avez l'intention de, en fait, d'inviter le public à participer sur le lieu de la conférence?
Ouais, Est-ce que vous allez jouer,
ben, faire jouer le public, c'est un peu moins évident, mais oui, il y a un volet de discussion là, mm-hmm. qui est planifié là, à la fin de la conférence. Puis, je veux dire, on est dans un domaine interactif, là, donc mm-hmm. s'il y a des gens qui veulent intervenir en plein milieu de la conférence,
ah ouais?
Et moi, c'est ce que j'ai dit à Yannick. Mm-hmm. J'ai dit, écoute, tu me donnes un micro, si j'ai le goût de te challenger drette en plein milieu, je vais le faire. Mm-hmm.
Il y a parce des gens qui veulent monter sur la scène puis commencer à chanter.
Écoute, il n'y aura pas de problème.
Il a très bien dit, c'est une anti-conférence. Donc,
c'est une anti-conférence.
Tout à fait.
Si je peux embarquer là-dessus, c'était intéressant quand on a rencontré Émile au début qui nous a proposé le synopsis de sa conférence. Nous, on avait déjà l'intention de redynamiser cette notion-là d'une conférence traditionnelle, où les gens finalement perdent l'attention après un certain temps parce que quelqu'un monopolise le micro pendant 2 heures. Dans le domaine du jeu vidéo, c'est quand même assez reconnu dans le milieu de la technologie, les fameuses conférences camp. On connaît les bar camps, les Facebook camps.
Peut-être les collaborations plus collectives, les trucs...
Exactement. Donc, c'est le concept d'avoir une conférence, qu'on dit non-conférence, où le public est participatif.
Okay.
Dans la formule la plus pure d'un camp, il n'y a pas de conférencier officiel d'invité. C'est vraiment le public qui vient présenter son projet, ses idées, débattre finalement de ses positions à travers un groupe d'initiés qui viennent d'un même réseau, par exemple, de milieu professionnel. Dans le cadre d'Antenna, les thématiques, on l'a dit tout à l'heure, c'est la musique et les technologies. Par exemple, si je peux introduire 2 conférences qui sont aussi sur cette formule-là.
Juste rappeler, si les gens s'intéressent à ça, donc le jeu vidéo est-il une forme d'art? Ludo Aesthetica, vendredi 2 octobre au Cercle.
C'est gratuit en 5 à 7. Donc, ça s'adresse à tout le monde.
Donc, venez prendre une bonne bière en même temps.
Absolument.
Oui. OK, bien, exactement. Ça va être excellent. Un vendredi soir, on n'a pas manqué. C'est ça. Il y a aussi d'autres soirées qui vont être de l'ordre de la participation, qui vont inviter le public à participer. Une première qui s'appelle le camp audio, où on travaille avec des gens, notamment...
Il y a beaucoup de trucs audio. Hein. Il y a beaucoup de trucs pour les musiciens, il va y avoir beaucoup de conférences sur des technologies, des logiciels audio.
Oui, c'est ça. Pour faire un bref aperçu, là, le volet éducatif se développe en 3 volets. Il y a un volet technique, vraiment, pour l'apprentissage de différents logiciels de composition numérique. Il y a un volet... On parle de live, de torque. Il va avoir une présentation du logiciel Record, qui est la nouvelle fonction d'enregistrement audio à même l'interface de synthétiseur Reason. Il va y avoir aussi MaxMSP pour ceux qui connaissent un peu plus la programmation pure. MaxMSP permet de créer, créer ses propres interfaces, ses séquenceurs audio ou vidéo. Tout ça va être animé par Myriol Lehmann, qui est le directeur technique d'Avatar. Il y a un gars qui est complètement hallucinant, très passionné. Vous le recevez souvent ici à Sequoia. Et bien sûr, il travaille chez Méduse. Dans un volet, pour venir au fameux camp, le camp audio cherche à mettre en valeur la création sonore, finalement, dans les œuvres contemporaines, d'une certaine manière, en voulant amener ailleurs que la dimension musicale de l'audio.
Okay.
Par exemple, Avatar et son fondateur, Jocelyn Robert, va participer au camp. On invite un gars comme Francisco Lopez d'Espagne qui, lui, va présenter l'aspect... quand on utilise, finalement, les environnements urbains pour reproduire des environnements où on a une référence géographique davantage par rapport à que la musique. On invite Sen Fortier de chez Frima, qui est concepteur audio chez eux, qui lui aussi, on s'entend, que ce soit dans une trame sonore, que ce soit dans un jeu vidéo, la dimension esthétique du son ramène aussi à un repère géographique. C'est très important, finalement. Donc, c'est une discussion autour de ces thématiques-là qu'on essaie d'amener. Un autre camp qui...
Ça va être à quelle date, ça, celui-là?
Celui-là va être présenté exactement le 3 octobre à 16h. C'est le samedi au Cercle, directement. Okay. Donc, c'est une conférence qui... c'est 10$. On invite vraiment tout le monde qui travaille dans le domaine du jeu, que de la création musicale, que la création d'œuvres visuelles, s'il faut, à venir débattre de ces idées aussi avec le panel de conférenciers. Deuxièmement, encore dans la formule des camps, le fameux Pecha Kucha, qui...
Oui, ça, c'est un genre de... d'endroits pour réseauter, en fait. Là, c'est des gens qui viennent, ils ont environ 2 minutes pour parler, ils présentent leur truc, leur projet.
C'est un peu ça, mais dans une formule qui est un peu différente, dans le sens où le Pecha Kucha s'est fondé à Tokyo en 2003, puis ça a vraiment pris de l'ampleur. C'est un mouvement planétaire, c'est un trademark, si on veut, de conférence, où les gens qui travaillent dans le milieu de la création, dans le design, sont invités à présenter un projet en 20 images, ils ont 20 secondes par image pour en commenter. Donc, ils ont 6 minutes 40 au total, et l'idée, c'est d'avoir vraiment une interdisciplinarité entre les sujets, entre les gens finalement qui fréquentent la conférence. On va inviter des gens qui sont dans le domaine de la musique, en architecture, en urbanisme, en environnement.
Je te dirais que ça m'a titillé. Ouais. Là, je me suis dit peut-être qu'on pourrait aller présenter Puissance Maximale. Là, mais finalement...
Complètement. Ouais, éventuellement.
c'est une bonne idée.
Ben, en fait, c'est pas trop tard, étant donné que nous, on lance Pecha Kucha dans le cadre d'Antenna, mais c'est un événement bimestriel. Exactement. À tous les 2 mois, il va y avoir, assez souvent, le dernier mercredi du mois, où il va y avoir une conférence Pecha Kucha au Cercle. Alors, c'est juste une invitation, mon cher.
Vincent, tu voulais peut-être faire un pont musical?
Ben, est-ce qu'on peut faire un pont musical et on va revenir avec la suite de l'entrevue dans quelques instants?
Donc, on revient tout de suite après. On prend un petit instant pour écouter une pièce du groupe Oromocto Diamond qui fera justement partie de la programmation d'Antenna. Donc, le groupe de Sam Murdoch, qui a déjà été même collaborateur à Puissance Maximale. Et donc, ça va être la pièce Silver. Donc, surveillez ça, Oromocto Diamond, sur la programmation de Antenna, le groupe. C'est un groupe du futur.
Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale.
Nous sommes de retour sur les ondes de KIA. Nous sommes en compagnie de Jean-François Jasmin, d'Émile Gauthier, et on va poursuivre on va poursuivre notre conversation qu'on avait. Il va y avoir une conférence sur le point sur les technologies de l'apprentissage. C'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Moi, en tant qu'enseignant, ça m'intéresse vraiment beaucoup de voir ça. On sait que la technologie est beaucoup utilisée ces temps-ci dans les salles de classe, même que la semaine dernière, on a eu une présentation sur un tableau interactif.
Ben oui, ça s'en vient. Hein?
Le Smart Board, qui est déjà dans certaines écoles, mais nous, on a eu la présentation. Alors, Jean-François, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de cette conférence-là?
Ben oui, écoutez, cette conférence-là, cette année, ça s'inscrit dans une collaboration avec Ex Machina, d'une certaine manière. Ex Machina et la caserne d'Arlousie nous offrent son espace. On essaie d'étendre les lieux de diffusion dans Saint-Roch, mais ailleurs aussi. Et à ce sujet-là, on a travaillé avec un gars qui s'appelle François X Côté, qui est un des fondateurs du LAMIC à l'Université Laval.
Le LAMIC
qui est le laboratoire d'ingénierie de la culture. Donc c'est une gang qui développe un paquet d'interfaces, de systèmes de projection qui sont utilisés par exemple dans le milieu muséal. On peut parler d'environnement immersif, de panoscope, de dôme et tout. Donc François est très très bien réseauté avec dans le domaine des blogs, milieu de l'éducation évidemment. Et cette conférence-là, c'est dans l'objectif de réunir... Bon, premièrement, c'est de démystifier qu'est-ce qui se fait aujourd'hui dans le milieu des technologies d'apprentissage. Le nom de la conférence, ça s'appelle « Mon enfant 2.0 ». Et ça s'adresse principalement aux parents. Donc, on invite les parents à venir s'asseoir à la caserne d'Alousie pour écouter Mario Asselin, qui travaille chez Opossum.
Oui, c'est un grand blogueur invétéré. Il y a un Twitter aussi.
Qu'on a déjà reçu ici à Puissance Maximale.
Alors, il va y avoir aussi, Clément Laberge, qui est vice-président au service d'édition numérique de Marc. Il va y avoir Patrick Plante, qui est chargé de cours, doctorant en technologie éducative à l'Université Laval. Et puis, il y a François Guitté, qui est coordonnateur du réseau d'information pour la réussite éducative, le RIRE, donc qui est un centre de transfert pour la réussite éducative au Québec. Alors, l'objectif de la rencontre, c'est justement de pouvoir présenter qu'est-ce qui se fait à Québec, principalement dans le milieu, par exemple, du tutoriel, dans le domaine des technologies d'information pour, par exemple, interfacer ou relier des salles de classe de différentes communautés, que ce soit, par exemple, une communauté inuite autochtone, dans le nord du Québec, autochtone, avec des salles de l'Université Laval. On peut parler du Serious Game. Oui, aussi, qui est utilisé bon, pour l'apprentissage. Vraiment, c'est justement de voir qu'est-ce qui fonctionne réellement dans le milieu éducatif. Est-ce qu'il y a beaucoup de... On s'en rend compte quand on lit les journaux aussi. Il y a beaucoup d'éléments qui sont utilisés un peu comme valeur marketing à vouloir mettre à l'avant son programme éducatif. Donc, ça va être de vouloir présenter un peu plus en détail qu'est-ce qui se fait aujourd'hui à Québec.
Donc, le point sur les technologies d'apprentissage, une conférence le vendredi 2 octobre dans Antenna.
Exactement, le vendredi à 19h à la caserne d'Alousie.
Sinon, peut-être nous parler d'une dernière conférence avant qu'on parle peut-être plus de musique. Il y a quelque chose, à mon avis, qui va être populaire, c'est la technique audiovisuelle du moulin image.
Ben, en fait, c'est une conférence qui... on travaille directement avec l'équipe de production d'Ex Machina, qui ouvre la porte au public.
Est-ce qu'il y aura René Lucier sur place?
René Lucier sera pas là, malheureusement. Non. René Lucier travaillait avec nous pour différents projets et pour des raisons personnelles, il a dû se retirer de la programmation. Donc, c'est un peu dommage, mais c'est ça. On travaille avec l'équipe de production d'Ex Machina qui va mettre à la disposition du public la fameuse maquette. On a entendu parler de ce laboratoire-là, complètement hallucinant, sur lequel les ingénieurs acoustiques, les gens en audiovisuel ont travaillé pendant plusieurs mois. Et souvent, ça a été présenté dans le cadre d'un milieu d'initié, ça a été présenté au milieu de la technique de scène et tout. Et cette fois-ci, le public va être capable de venir sur place pour poser leurs questions, en apprendre davantage sur qu'est-ce que ça représentait comme défi audiovisuel dans la ville et sur la plateforme comme telle de la Bungie.
Je peux vous dire que pour avoir vu justement les dessous du moulin image, puis tout l'aspect technique, puis c'est vraiment intéressant, là. C'est vraiment impressionnant tout ce qui s'est tramé derrière ça au niveau technique, sonore, visuel.
Ça risque
d'être fort intéressant.
Ben, ça relève du génie, hein, vraiment.
Absolument. Mais juste par exemple, on parle d'un système de projection là, qui était complètement hallucinant. Les projecteurs qui étaient utilisés dans le projet. Je me rappelle que, à l'époque, je travaillais pour la SAT à Montréal, puis on nous avait partagé le fait qu'il y avait planifié au tout début d'avoir des projections qui étaient à l'horizontale sur les silos et que pour obtenir une résolution vraiment plus appropriée par rapport à ce qu'ils voulaient créer comme effet, il a fallu virer les projecteurs de 20 000 lumens et en fournir un seul par silo pour l'approcher au maximum de la bâtisse. Juste ce genre de problématique-là, c'est des éléments qui, probablement sur la maquette, n'étaient pas présents, mais qu'une fois que tu arrives dans le réel, c'est justement c'est pour montrer c'est quoi le cheminement finalement qu'ils ont passé à travers l'équipe de production.
Donc, la technique audiovisuelle du moulin image le samedi 3 octobre, c'est à ne pas manquer.
Mm-hmm.
Sinon, Antenna, c'est aussi de la musique. Alors, Émile, dis-moi, là, il y a plusieurs groupes qui vont jouer. Il y a des trucs qui ont attiré mon attention. Là. Romokto Diamond et Mathématiques, on en a fait jouer tout à l'heure. Ça va être à l'Agité le 1er octobre, le spectacle.
Je peux parler rapidement. Il y a un projet de Sam Chalabi, de Land of Kosh. qui va vraiment attirer l'attention de beaucoup de gens. On s'en va. Au début, c'était censé être présenté à l'AJT, mais étant donné que le projet est de réunir sur scène au-delà de 30 musiciens, je pense qu'on est rendu à 35 musiciens. La moitié de l'AJT était déjà occupée, donc on va faire une petite translation vers le Studio P. Alors, on parle d'un orchestre complètement hallucinant qui va vraiment sonner le coup d'envoi là, du festival. Le lendemain, moi, personnellement, qu'est-ce qui attire mon attention? C'est le fameux concert de Do. Pour ceux qui n'ont pas déjà leur billet, je pense que c'est presque sold out. Ça vaut la peine de courir là-dessus. C'est plus folk. Je dirais que c'est un mélange d'inspiration entre Sheryl Crow et Björk. C'est un duo français et finlandais qui, avec une fille complètement hallucinante, elle est tellement belle. Elle a vraiment une voix un petit peu haïssable. Avec
Nasillarde peut-être un peu.
Nasillarde sur les barres, ouais, mais des bonnes mélodies qui sont pas nécessairement dans l'ordre du lieu commun. Là.
Toi, Émile, est-ce que tu as des suggestions de musique, justement?
Oui, mes suggestions, je dirais, en tant qu'artiste, là, rapidement comme ça, ben, c'est évident que je pense que Champion à l'Impérial, ça peut être assez intéressant.
Ça, danser, c'est la place.
Oui. Exact. Sinon, ben le vendredi, tout de suite après Ludo Estetica, l'anticonférence d'Ubisoft, on reste parce que c'est DJ Rupture au Cercle. Puis moi, je suis un gros fan, donc ceux qui aiment les grosses basses, souvent la musique un petit peu dubstep qui se mélange avec la musique du monde un peu au travers, downtempo, DJ Rupture avec Lemonade, c'est vraiment un bon pick-up. Sinon, même la même soirée à l'antenne au Studio P de Man Machine, c'est très intéressant. L'homme machine.
Est-ce que c'est un homme orchestre ou non, ça n'a pas rien à voir?
Ben en fait, moi de ce que j'ai entendu, puis c'est très brièvement, c'est plus par curiosité que je veux aller là. Ouais. C'est quand même un type solo si on veut. Puis ça, c'est quand même un électro très très intéressant à écouter. Moi, j'ai beaucoup de curiosité envers ça. Le samedi, ben je serais peut-être idiot de pas vous inviter à mon lancement parce que ouais, mon objectif. Mon
objectif. Tu l'as dit tantôt.
C'est ça.
Arrête tes chiens.
C'est de vendre ta boîte de CD. C'est
ouais,
ça.
Exactement. Ouais, j'ai des CD à vendre.
Il y a un truc, là, il y a des shows secrets là, sur la
oui,
programmation. Mm-hmm.
C'est quoi, ben oui, c'est, on ne vous dira pas secrets. C'est quoi.
Mais c'est quoi? Et je pense qu'il va y avoir des affiches qui vont être posées à travers la ville.
Exactement. En fait, le concept du show secret, c'est d'inviter tout le monde au scanner en fin de soirée. Voir un concert qui en vaut vraiment la peine. C'est des exclusivités. Puis dites-vous que si l'équipe de Vast avec Shani Lager va réaliser des œuvres, en fait, des posters exclusifs pour l'événement, c'est que ça vaut vraiment la peine. Donc, je peux pas trop développer là-dessus parce que.
C'est ça va être des affiches en fait, avec des stencils et tout ça, là, c'est artisanal et tout. Là.
Ça va être cool, ça. Les choses secrets, il faut aller voir ça au scanner.
Ouais, puis si je peux peut-être terminer sur un groupe qui a attiré vraiment mon attention, c'est Japan Droid au Cercle le dimanche soir. Ça va être complètement hallucinant. C'est un duo qui il fait un peu dans le. C'est vrai que c'est du rock garage, mais avec des grandes ambiances de reverb, un peu à la post-rock, avec un son distorsionné, vraiment vraiment chaud, des bonnes voix, c'est vraiment surveillé.
Peut-être les gens qui veulent écouter, avoir un aperçu, il y a moyen d'aller voir les MySpace. Hein, tous les liens sont sur le site d'Antenna.
Exactement. Généralement, la cuisine, ça brasse pas mal après les shows d'Antenna.
Mm-hmm. Absolument.
Donc, antenne-a.com, allez voir ça. Sinon, moi, je finirai en vous suggérant le même soir qu'il y aura Mokhtar Diamond. Donc, l'orchestre d'homme orchestre à la Casbah, c'est toujours quelque chose à voir. Donc, c'est pas simplement un spectacle de musique, c'est aussi une performance théâtrale. Alors, voilà, c'était pour Antenna. On rappelle que c'est le 30 septembre au 4 octobre, donc musique et technologie. Je vous remercie d'être venu, Émile Gauthier et Jean-François Jasmin.
C'est toujours un plaisir, les gars.
Et bon festival.
Vous aussi. Salut.
Donc, on va poursuivre avec une pièce musicale. Ça va être une pièce d'un groupe qui s'appelle Chip Tots. Et c'est de la musique 8 bits. Ça va être la pièce ABC, donc une reprise du groupe Jackson 5 de Michael Jackson. Donc, à 8 bits, vous êtes à puissance maximale.
Bonjour, je m'appelle Isaac. J'aime beaucoup Maximal Sumo. Fin.
De retour à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA. Eh bien, François, dis-toi que j'ai testé des jeux cette semaine et c'était des jeux sur la PlayStation 3. Bon. Est-ce que ma PlayStation 3 est réparée? Non, c'est juste que j'ai eu la chance de les jouer sur des PlayStation...
De tes amis.
De mes amis ou de gens que je connais, tout simplement. Tout d'abord, parlons du EA Sport NHL 2010, qui est une série extrêmement connue, qui se joue sur la PlayStation 3 ou l'Xbox 360.
Un jeu de hockey.
Un jeu de hockey. Et cette année, c'est Patrick Kane qui est sur la pochette, un joueur des Blackhawks de Chicago, qui est quand même un très bon joueur, mais qui était connu pour certaines frasques qu'il a faites.
C'est un bagarreur?
Dans le dernier mois, c'est que, ben là, je peux pas vraiment dire si ça a été réglé à l'amiable en cours ou quoi que ce soit, mais lui et son cousin à Buffalo auraient tabassé un chauffeur de taxi pour avoir un peu d'argent ou des choses comme d'après ce que je me souviens.
Il fait la cover.
Et ça avait fait la manchette, et il fait la cover, il fait la couverture de la pochette du jeu.
Là là.
Et si on se souvient bien, je sais pas si tu connais le nom de Danny Heatley, qui est un joueur maintenant qui est rendu avec les Sharks de San Jose. Lui aussi faisait la pochette de NHL à l'époque, ou peut-être le jeu de 2K, je me souviens pas. Et lui avait été impliqué dans un accident qui avait causé la mort d'un de ses coéquipiers, un accident de voiture. Et on l'avait tassé, bien sûr, de la promotion à ce moment-là.
Il n'y a pas un jeu de Nintendo aussi que sur la couverture, il y a Hulk Hogan. Puis il y a eu non, c'est quoi
c'était,
le...
Y a pas eu, le c'était boxeur, le jeu de Punch-Out puis... avec Mike Tyson.
C'est ça, Mike
le Mike Tyson Punch-Out à l'époque. Et on a changé ça pour Mr. Dream, qui ressemblait tout à fait à Mike Tyson. On a juste changé le nom. Alors, le NHL. Bon, c'est un jeu, si vous connaissez le NHL de EA, il n'y a pas grand-chose de changé par rapport à l'année passée. C'est quelques ajustements quand même très bien. C'est un jeu qui est quand même intéressant. Il est possible maintenant de batailler un peu sur les côtés de la rampe. Quand on est sur la bande, là, avant ça, on ramassait la rondelle, puis on se tassait, on se faisait plaquer, tout simplement. Et c'était le joueur adverse qui ramassait la rondelle. Maintenant, c'est possible d'aller à côté des joueurs dans la bande et de faire comme au hockey pour vrai. Souvent, je sais pas si tu es un amateur de hockey que tu vois ça de temps en temps, mais on voit souvent les joueurs le long de la rampe en train de jouer avec leurs patins pour essayer de cacher la rondelle ou la passer avec le patin d'un bord ou de l'autre de la bande. C'est possible de faire ça. Mais bon... Petit côté négatif, moi, que j'ai noté, c'est que si on descend pas le niveau de pénalité ou de punition dans le jeu, on est souvent interrompu par l'arbitre pour avoir retenu à ce moment-là. Donc, tu sais, il y a des petits bugs avec ça. C'est assez spécial. On reçoit des pénalités pour retenir, malgré le fait qu'on veut juste se batailler un peu le long de la rampe pour avoir la rondelle.
Okay.
Quelque chose qui a fait la manchette également dernièrement, c'est que maintenant, les batailles, on peut les voir en première personne.
Ah oui?
Donc, on peut... avant ça, les batailles, on savait pas trop quand est-ce que ça allait arriver dans le jeu de hockey. Là, on se faisait plaquer, puis ça arrivait comme ça. Maintenant, on peut la commander, la bataille, tout simplement, là, la faire à la première personne. Donc, on voit seulement nos points aller. Ce qui a fait la manchette, bien sûr, parce que la bataille au hockey, c'est quelque chose dont on entend parler. Ça fait partie du hockey, oui, mais c'est mal vu depuis un certain nombre d'années.
Mais dis-moi, là, ça ressemble à quoi le combat? Là? Est-ce qu'on...
On voit les deux mains, tout simplement, de notre joueur, puis on voit le joueur adverse en face de nous.
Donc, sur les boutons,
c'est avec les sticks analogiques, là, les deux bâtons sur la manette. Donc, un qui nous permet de contrôler à quel endroit on l'envoie, l'autre pour donner les coups de poing.
Okay.
Et bon, ça amène un certain réalisme, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus intéressant. Une fois que tu l'as fait une fois, tu te dis, bon, encore une fois de plus, c'est pas vraiment grand-chose d'intéressant. Il y a également la précision au niveau de la passe. On peut passer beaucoup plus... Ben, en fait, ils appellent ça précision au niveau de la passe. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt non précis. Avant ça, en faisant des passes, automatiquement, on l'envoyait vers un joueur. Il n'y avait pas de problème. Là, il faut vraiment y aller avec le stick analogique de gauche pour décider où on l'envoie, la passe, tout simplement. Et parfois, on ne réussit pas à les capter comme il faut. Donc, c'est un peu dérangeant pour les joueurs qui ont été habitués avec le EA d'avoir un jeu un petit peu plus arcade et non réaliste. C'était ça qui séparait un peu les deux jeux, celui de 2K et celui de EA. Le EA était beaucoup plus arcade, celui de 2K était plus réaliste.
Okay.
Et là, bon, on a décidé chez EA de mettre un petit peu plus de réalisme dans le jeu, ce qui fait que, bon, si on est un puriste de EA, à première vue, comme moi, quand je l'ai essayé, j'étais un peu insatisfait de ça. Mais pour le reste, c'est la même chose. On a continué connu les carrières solo de joueurs. On peut être un joueur, se créer notre propre joueur et partir des mineurs et monter tranquillement vers la Ligue nationale. Même chose si on veut être un gérant d'équipe ou en fin de compte un directeur général. On peut se partir de notre équipe et gérer la masse salariale et tout ça. Seulement faire ça.
Ah ouais?
Oui, dans le jeu. Donc, vraiment, beaucoup plus d'options qu'on en avait dans le temps à l'époque où c'est sorti. Donc, EA Sports, le NHL, moi, je donne un 8 sur 10. Garde, c'est quand même très bien. Pas grand-chose de changé à part les petits ajustements dont je vous ai parlé. J'ai eu la chance aussi de jouer à Rock Band The Beatles. Ça s'est passé en fin de semaine.
C'est un gros joueur, là. Franchement, là, c'est... Comment t'as trouvé ça?
Ben, franchement, j'ai bien aimé. Premier, nous, on a ouvert la boîte là, en direct parce que c'est un cadeau qu'on faisait, donc on l'a monté pour la personne. Et c'est super bien fait. Là, la batterie là, avec les tambours blancs, ça ressemble vraiment un petit peu old school comme batterie, avec un petit morceau de tissu qu'on peut mettre devant avec The Beatles qui fait comme la grosse caisse. La basse de Paul McCartney qui est incluse dans le package, disons, c'est vraiment là, la réplique parfaite de la basse. Il faut malheureusement acheter une deuxième guitare si on veut jouer à deux guitares. Elle n'est pas incluse dans le prix, mais il y a le micro qui est inclus et le jeu, bien sûr. Donc, tape à l'œil sur le coup, c'est vraiment intéressant. Quand on commence à jouer, super belle animation des Beatles, regarde, c'est vraiment bien fait. Même les animations dans le jeu, là, je parlais de l'animation d'introduction qui est vraiment bien faite, mais dans le jeu, c'est extrêmement bien fait également. On a plusieurs séquences de différentes époques des Beatles qui jouent derrière nous, en fin de compte, derrière l'écran, quand on joue. Au niveau du jeu, je l'ai trouvé un peu simple, un peu facile.
Un peu facile.
Moi qui joue normalement à difficile, là, je trouvais ça quand même facile de jouer.
Okay.
Quelques chansons qui étaient un peu plus difficiles, mais j'ai trouvé assez simple. Bon, je me suis dit peut-être qu'ils ont décidé de le mettre un petit peu plus facile parce que c'est un jeu des Beatles, peut-être tout le monde va jouer ensemble. La famille au complet, on essaie d'intégrer tout le monde dans le jeu. Mais également, les Beatles, c'est de la bonne musique, mais on s'entend que c'est pas la musique ou le développement de la musique qu'on connaît aujourd'hui. Donc, les multiples notes et tout ça, ça n'existait pas nécessairement à l'époque. Là. C'était vraiment...
Est-ce qu'ils ont mis la voix comme ils ont fait avec le jeu de Metallica?
Oui. Tu veux dire la voix des originaux?
Oui.
On a travaillé avec les tracks originales,
okay.
Simplement. Alors, ben, c'est déjà le temps de nous quitter à puissance maximale. On remercie Jean-François et Émile qui sont passés pour Antenna. Et merci à toi, François, d'avoir été à l'émission.
Merci à toi, Vincent. Juste peut-être en finissant, parler des sorties de jeux qui sont sorties cette semaine. Si vous allez en magasin, vous allez pouvoir mettre la main sur Ion, The Tower of Eternity, Fallen Heart, Heroes Over Europe, Order of War, The Price is Right, édition 2010, Where's Waldo, The Fantastic Journey, et attention, dès demain, vous allez pouvoir mettre la main sur The Tales of Monkey Island, Lair of the Leviathan. Donc, on parle de Monkey Island 5.
Alors, comme on vous dit, à chaque semaine, mais on vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine.